Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une autrice sans conteste féministe, avec ses romans qui donnent la parole à celles qui souvent ne sont pas écoutées. Elle fait entendre, elle, une autre réalité, une autre vérité que celle racontée par les hommes. Après « Ces femmes-là », en 2023, son nouveau roman vient de paraître en français sous le titre « Dios et Florida », dans une traduction de l'anglais des États-Unis par Adélaïde Pralon aux éditions Globe. Bonjour Ivy Pocoda.
Hi.
Et bienvenue.
Bonjour.
Et je salue aussi Marguerite Capel à nos côtés, qui sera votre interprète tout au long de cette rencontre. Dios et Florida, qui sont donc les prénoms de vos deux protagonistes principales et qui sont rejointes dans le récit par d'autres femmes, Casey, une détenue, et Lobos, une policière. Nous sommes aux États-Unis pendant le confinement et le récit commence en prison avec justement Dios et Florida, incarcérés pour des faits graves. Quelle est l'idée première de ce roman ?
L'idée de départ du livre est venue d'une conversation que j'ai eue avec un ami au bar. On était fans du travail de Cormac McCarthy, en particulier de Méridien de sang, et on parlait de la masculinité dans le Méridien de sang, que c'est un livre très masculin. Et on a fait un petit exercice intellectuel, on s'est demandé si on pouvait écrire ce genre de livre qui mettrait les femmes au centre. C'était une sorte de pari. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je vais essayer d'écrire sur la violence des femmes sans leur trouver d'excuses. Il y a tellement de violence masculine dans la fiction, dans le vrai monde aussi, dans le cinéma. Et je me suis demandé si on pourrait écrire sur des femmes qui feraient la même chose d'une manière qui n'excuse pas cette violence. On a beaucoup écrit sur la violence de femmes à qui on avait fait du mal. Un homme les avait abusées, les avait violées, un enfant mourait. Mais on ne voyait jamais des femmes qui étaient violentes parce que c'était dans leur nature. Donc l'idée était d'essayer d'écrire ce livre, de voir si j'en étais capable. Et puis l'autre point de départ, c'est que j'avais également écrit un autre livre précédemment que vous avez mentionné, « Ces femmes-là », qui parlait de la violence faite aux femmes. Et quand j'avais fait la promotion de ce livre, je m'étais rendu compte à quel point les réactions face à la violence en fiction étaient genrées. Les hommes ont le droit de faire certaines choses, les femmes ont le droit de faire autre chose. J'avais envie de subvertir ce cliché-là.
Alors justement, en prologue, c'est la voix de Casey qui ouvre le récit, une prisonnière comme Dios et Florida, qui d'emblée déclare « Vous imaginez pas de quoi les femmes sont capables. Au fond de nous, on porte la même rage, c'est juste qu'on la laisse pas sortir de la même façon. » Fermez les guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment une différence, diriez-vous, entre les hommes et les femmes dans l'expression de la violence ? Parce qu'un autre personnage dit plus loin que le concept d'un crime de femme n'existe pas.
Bien sûr que les femmes, en général, ne sont pas aussi violentes que les hommes. Ça n'arrive pas dans la réalité, mais si on vit dans une société dans laquelle on imaginerait que les femmes, et on souhaite que les femmes puissent faire la même chose que les hommes, il va falloir imaginer autant de violence chez les femmes que chez les hommes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes et les hommes sont égaux. Bien sûr, il y a davantage de force physique du côté masculin. Bien sûr, une femme ne peut pas soulever les mêmes poids, par exemple, en général. Mais on parle d'une réaction émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les femmes. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pouvait pas être candidate, par exemple, à la présidentielle ? Parce qu'elle était trop émotionnelle. On se disait qu'elle ne gouvernerait pas avec son cerveau, mais avec ses émotions. On sait que c'est faux. Et donc, si on veut imaginer cette société-là, on est obligé aussi d'imaginer le revers de la médaille et des femmes qui soient capables d'être aussi violentes que les hommes. Je ne vais pas vous dire, moi, que les femmes sont aussi violentes que les hommes en général, mais elles sont capables de la même chose. Et imaginer que ça ne s'est jamais produit, ça me semble idiot. La violence ne devrait pas être masculine ou féminine. Il ne devrait pas y avoir de crime masculin ou de crime féminin. Les gens n'arrêtent pas de discuter. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de femme ? Ce serait un certain type de vengeance contre quelqu'un de connu. Mais il y a aussi des femmes qui vont aller tuer des inconnus. Ça existe, c'est un fait. Donc je pense que ce sont des stéréotypes, des archétypes qu'on utilise pour justifier nos propres normes genrées.
Alors, une fois que ce statut est posé, rentrons dans votre roman Ivy Pocoda, puisque nous sommes en prison, et une prison qui s'échauffe particulièrement en cette période d'épidémie mondiale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ailleurs ce moment précisément où la Terre s'arrête de tourner, où les villes deviennent des villes fantômes, comme ici Los Angeles ?
J'ai écrit là-dessus parce que c'est ce que je vivais. Je ne peux pas vraiment parler de la situation de tout le monde pour tout le monde, mais la pandémie à Los Angeles, c'était vraiment quelque chose qui nous a isolés énormément. C'est une grande ville dans laquelle il y a beaucoup d'espace et les plages, les parcs, tout était fermé. Ma fille n'est pas allée à l'école pendant 20 mois. On était vraiment enfermés chez nous. Et j'ai vu des vidéos de ce à quoi ressemblait New York pendant la pandémie. Et pour nous, c'était très différent. On avait vraiment l'impression d'être emprisonnés. Moi, c'est ce que je ressentais. Je me sentais enfermée dans ma maison. Ça n'allait pas très bien non plus dans ma vie personnelle et mon mariage. Et la conséquence a été que ça s'est manifesté par un livre sur la prison. C'était pas très conscient jusqu'au moment où ça l'est devenu.
Donc le confinement réel et le confinement dans la fiction. Et d'ailleurs, vous renversez, vous, les codes du roman. Normalement, on suit des criminels, femmes ou hommes, jusqu'à la prison. Et là, c'est l'inverse. On commence en prison. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'ils ont fait. Et on sort avec eux, puisqu'à la faveur, effectivement, de l'époque, il y a une sortie anticipée de Dios et Florida. Et on les voit revenir presque à une vie normale, c'est le processus inverse. Parlons des personnages, justement. Florida, pour commencer. Florence, de son vrai prénom, qui est issue plutôt d'un milieu social favorisé, comme on le découvre au cours du roman, qui a grandi dans un quartier chic de Los Angeles. Qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Ivy Pocoda ?
Oh wow, this is tricky. I always get in trouble.
Ce n'est pas simple, j'ai toujours énormément de mal à répondre à cette question.
So, you know, I feel that what I was trying to say with Florida,
pour moi, je crois que ce que j'essayais de dire à travers Florida, c'est que parce qu'elle est privilégiée, ce qu'elle fait de mal, les crimes dans lesquels elle est impliquée, quand elle est liée à la drogue, elle fait la fête, elle a des liaisons avec des gens plus âgés, les gens vont penser qu'on s'est servi d'elle, qu'elle s'est attirée des ennuis. Et on voit ça tout le temps avec les célébrités riches sur les réseaux sociaux, à qui il est arrivé quelque chose, mais qui ne sont pas responsable de leurs actes. Elle est responsable de ses actes dès le premier jour. Oui, elle franchit une frontière avec quelqu'un qui est plus âgé, un homme qui peut-être se sert d'elle ou pas, mais elle le savait à ce moment-là. Ce que je voulais, c'était écrire sur cette culpabilité dont on absout ce genre de personne, de ce genre de femme, en disant qu'elle ne contrôlait pas ses émotions, ses actions et qu'on l'a utilisée. Alors qu'en réalité, Florida est 100% consciente de ce qu'elle fait. Mais elle se cache derrière ce masque en disant « Ma mère, mon avocat disent tous que ce n'était pas de ma faute. Parce que cet homme m'a poussé à le faire, je n'ai pas vendu ces drogues, c'est quelqu'un d'autre qui m'a forcé à le faire. » Mais la vérité, c'est qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Et je veux que les gens reconnaissent que parfois, des personnes font ce genre de choses, qu'ils soient riches ou pas, que ce soit des femmes dont on pense qu'elles ont peut-être été abusées. Il y a des fois des cas où c'est leur faute. Et je pense que c'est dangereux dans notre société de toujours faire porter la culpabilité aux circonstances extérieures qui pèsent sur quelqu'un. C'est souvent le cas, en particulier les personnes défavorisées qui commettent des crimes pour se survivre quand ils n'ont pas d'autre choix. Mais l'Amérique est remplie de gens riches, de célébrités qui ont des comportements terribles et dont on dit « Ah, mais quand même, il a eu des difficultés en tant qu'acteur, du coup il a commencé à prendre des drogues. » Peut-être qu'il savait ce qu'il faisait, en fait. Et Florida le savait. Elle est un produit de sa société. Elle est un produit de cette incapacité à affronter peut-être le fait qu'en tant que femme, elle a décidé par elle-même de commettre ses actes. Et je voulais qu'elle puisse décider par elle-même de commettre ses actes. Je pense que c'est ça qui est cool.
Je vous écoute, Ivy Pocoda, et je me dis que vous ne pourriez pas faire fortune en étant avocate, vous.
Je ne sais pas.
Je pense que je serais probablement une très mauvaise avocate de la défense, mais j'ai un ami qui travaille dans le système judiciaire et qui m'a dit si tu veux mentir toute la journée, eh bien, deviens avocat de la défense. Et c'est ce que fait Florida. Elle ment sur ses motivations et sur son mobile. Et c'est ce que font les avocats. C'est une super question. Dios dit, dans ce monde, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et on le cède si rapidement, on l'abandonne si rapidement, en laissant des hommes dire « Ah, mais elle n'en avait pas l'intention, c'était pas son objectif. » C'est quelque chose de puissant de tuer quelqu'un. Ce n'est pas bien, mais c'est puissant. Et donc, quand on laisse quelqu'un excuser votre comportement en tant que femme, c'est une manière de céder, de renoncer à son pouvoir, et bien sûr, d'être utilisé encore une fois par des hommes, par des avocats, par la société. Et Dios ne veut pas ça, et c'est pour ça qu'elle en a après Florida. Elle veut qu'elle récupère son pouvoir d'une manière tout à fait tordue.
Parlons de Dios maintenant, son acolyte, qui n'est pas vraiment son ami. Et d'ailleurs, quand elles sont toutes les deux libérées de prison, Dios poursuit Florida. Et elle semble même lui faire peur. Qui est Dios ?
Well, I mean, as a person, she.
Bien, en tant que personne, c'est très difficile pour moi de parler de ça parce que j'ai plutôt envie de parler de ce qu'elle fait et pas de là d'où elle vient, parce que ça ne compte pas là d'où elle vient. Elle vient d'un milieu populaire, mais avec quand même quelques privilèges, puisqu'elle a pu aller dans une bonne école. Mais quand elle est confrontée à la violence, elle réagit par la violence. Donc, ce qu'elle est en tant que personne, c'est une personne qui réagit à la violence par la violence.
Alors, c'est vrai que dans cette virée américaine de Dios et Florida, il y a quelque chose un peu de Thelma et Louise, ce film auquel on peut faire référence, où on voyait deux femmes, effectivement, en quête de liberté. Moi, j'ai aussi pensé à Fight Club à un moment. Je me suis dit, dans quelle mesure Dios et Florida ne sont pas la même personne et les deux faces, justement, de la même femme ?
C'est une formidable question. Merci de me dire que ça ressemble plus à Fight Club qu'à Thelma et Louise. Ça me plaît beaucoup parce que même si elle meurt à la fin de Thelma et Louise, il y a une forme de happy ending. J'adore ce film. Elles choisissent de se donner la mort et c'est hollywoodien. Effectivement, les personnages sont la même personne, mais une seule s'en rend compte. Il y en a une qui a les privilèges et qui est plus dangereuse, Florida, que Dios, parce qu'elle peut s'intégrer dans le monde normal. Elle peut avoir l'air de n'être pas spécialement violente ou menaçante, alors que Dios est celle dont les gens vont se méfier. Elle a ce nom latino-américain. Elle est à moitié latina. Mais en réalité, c'est la même personne, sauf que Florida refuse de le voir. Et c'est Dios qui n'arrête pas de lui dire « Nous sommes exactement pareil », alors que Florida lui répond « Non, nous n'avons rien en commun ».
Dans un instant, on va continuer de parler de ce roman avec vous, Ivy Pocoda, et plus particulièrement peut-être de Casey sur un point précis, et puis de Lobos qui a un rôle très important. Pour l'instant, c'est l'heure de la pause musicale dans Littérature sans frontières. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écoute ensemble?
Oh wow. At the moment, oh, it's interesting. I have a 10-year-old daughter.
En ce moment, j'ai une fille de 10 ans qui adore la Motown et le hip-hop, donc on écoute énormément de classiques du hip-hop et de la Motown à la maison.
Time is spent with her.
Donc, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique avec elle et elle a volé ma playlist Spotify. On écoute ce qu'elle veut.
Donc on écoute un morceau de Motown.
OK.
Avec plaisir. We'll Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine américaine Ivy Pocoda, dont le nouveau roman vient de paraître en français aux éditions Globe sous le titre Dios et Florida, dans une traduction de l'anglais par Adélaïde Pralon. Le récit, on l'a dit, de deux femmes dans une Amérique contemporaine et violente qui sont poussées à l'acte et dont on comprend au fur et à mesure du récit les raisons qui les ont conduites peut-être à se défendre à tout prix. Et puis arrive Lobos, une policière qui est sur la trace d'ailleurs de Dios et Florida à la suite d'un meurtre que l'une d'entre elles a commis sur la route. Une femme dont on découvre qu'elle aussi est malmenée dans sa vie d'épouse. Et c'est un personnage, vous nous dites, Ivy Pocoda, qui même si elle est représentante de la loi, avec un uniforme, avec une arme, eh bien elle n'est pas à l'abri non plus de la violence familiale.
Well, so Lobos is an interesting character to me.
Lobos est un personnage intéressant pour moi. Je vais parler un peu des raisons de sa présence dans le livre, si vous voulez bien. Je comprends qu'on ne puisse pas s'identifier à Dios, parce qu'elle est extrêmement violente. Je pardonne aux gens de ne pas réussir à se reconnaître en elle. Moi, oui, je me reconnais en elle, non pas parce que je suis violente, mais je pense que nous avons tous des impulsions que nous réprimons, des pulsions en nous. Florida est plus proche d'une personne normale, dirons-nous, mais elle est quand même assez violente. Néanmoins, je vous pardonne de ne pas voir votre portrait en elle. Lobos, elle est là parce qu'elle représente l'expérience de toutes les femmes en tant que femmes dans la société, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie conjugale, en tant que fille de quelqu'un. Elle incarne la violence quotidienne que subissent les femmes tous les jours et qui sont considérées comme normales. Elle est toujours une femme avant d'être quelqu'un qui fait son travail. Et je pense que toutes les femmes doivent être capables de reconnaître ces éléments-là, et si ce n'est pas le cas, elles jouent le jeu du patriarcat en acceptant d'être des citoyennes de seconde zone. Donc Dios et Florida, pour moi, sont la possibilité des femmes violentes, mais si vous n'acceptez pas cette possibilité, peut-être que c'est au travers du personnage de Lobos que vous verrez ce potentiel de la violence féminine. Parce que pour revenir à votre question, elle voit et elle comprend pourquoi une femme peut être violente, parce qu'elle a elle-même ressenti ces pressions dans sa vie.
Et donc, je voulais revenir un instant aussi à Casey, qui est une donc des quatre voix féminines du récit. Et voilà ce qu'elle dit, page 71. « Je suis une bibliothèque de voix. Chaque victime de celle qui séjourne entre ces murs vient vivre dans ma tête. J'honore les morts, ces morts, vos morts, peu importe. Je fais ce que vous oubliez de faire, ce que vous négligez. Je m'occupe de ce que vous oubliez parce que je n'ai pas le choix. » Fermez les guillemets. Moi, ce que je comprends ici, dans ce passage, c'est que c'est une bibliothèque de voix qui ne sont pas entendues. Et c'est pour ça que je me demandais si vous, comme écrivaine, justement, vous restituiez ces voix qu'on n'entend pas, qui ne peuvent pas se faire entendre, et que vous, vous prenez en charge par l'écriture.
Oh, of course, yes. That's another thing I love to do in my writing.
Oui, bien sûr, c'est aussi quelque chose que j'aime faire. Il y a tellement de choses dans l'écriture qui ont trait justement à ces voix qu'on n'entend pas. En tant qu'écrivaine, c'est un peu bizarre de dire ça en tant que femme blanche privilégiée, mais j'adore écrire sur des personnes qui ne sont pas représentées en littérature. En tant que femme blanche, j'ai évidemment un point de vue différent. Ce ne serait pas la même chose si c'était une femme hispanique écrivait sur l'expérience des Latinas aux États-Unis. Ce serait sans doute un autre genre de livre. Ça pourrait être toutes sortes de livres d'ailleurs, mais en tout cas, les gens y répondront d'une certaine manière. Mais j'ai le sentiment que si on peut éclairer, montrer, mettre en lumière certaines communautés, comme par exemple la communauté, le quartier de Skid Row où j'ai travaillé, où la plupart des gens n'étaient non-blancs. C'est important pour moi, en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que parent, vis-à-vis de ma fille, de refléter le monde au sens large. Et il me semble impératif de le faire sans vouloir nécessairement faire passer un message spécifique, genre je vais écrire un livre sur Skid Row pour expliquer au monde. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qui est forcé, mais j'ai le sentiment que c'est mon travail, en tout cas mon privilège peut-être plutôt que mon travail, de donner une place à des voix qu'on n'entend pas, à des personnes qu'on ne voit pas ou qui ne sont pas représentées ou pas assez. Cela aussi permet de créer une forme de symphonie, parce que le monde est un endroit très riche. Pour moi, les livres sont des espaces panoramiques ou à trois dimensions. Donc, par exemple, quand j'écris sur Skid Row, si je vous dis ce que moi je pense de cet endroit, ce sera très différent de ce qu'une personne sans domicile en pense ou de ce qu'un riche de Beverly Hills en pense. Donc plus il y a de voix, plus vous avez de texture, de richesse. Et donc il faut reconnaître ces différentes voix. Sinon, vous aurez une vision extrêmement plate des choses. Et ce sera une seule version de la vérité, mais pas la vérité tout entière.
Est-ce que c'est plus facile depuis MeToo de parler des violences faites aux femmes?
Est-ce que c'est plus facile? Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est non, parce que j'entends aussi beaucoup de réactions négatives de la part de résistance, de la part des lecteurs. Oui, peut-être que c'est plus facile de parler des femmes, mais on n'a toujours pas envie d'entendre parler des femmes non blanches. Je sais qu'on n'est pas censé lire les critiques en ligne, mais je suis très intéressée par les retours de lecteurs, parce que je veux voir si les gens sont à l'aise avec le type de personnage dont je parle. Et je lis « Oh, mais non, cet endroit est déprimant, ce personnage est déprimant, qu'est-ce que c'est que cette histoire déprimante ?» Ou alors « Oh, je ne supporte pas ces contextes tristes avec des prostituées, des criminels. » Et ça me montre que peut-être il est plus facile pour les femmes d'exprimer, de parler de la violence sexuelle, mais qu'on n'a toujours pas envie de parler des femmes les plus exclues. Ça, je vous promets que ça n'a absolument pas changé. Si j'écrivais uniquement sur des femmes extrêmement riches, si les deux personnages étaient blancs, la réaction ne serait pas du tout la même. Mon roman, ces femmes-là, a été présenté à des producteurs hollywoodiens et à chaque fois, le rapport qu'on avait, c'est que c'était trop déprimant dans le portrait des communautés noires, des communautés non blanches, et on ne voulait pas ce genre d'histoire, on ne voulait pas entendre parler de ça. Pour moi, c'est au contraire quelque chose d'assez riche et encourageant, parce qu'on voit que ces femmes ont une vie intérieure aussi dans ces livres, elles ont une vie très riche, mais l'idée, c'est de développer les possibles de l'expérience féminine, mais MeToo est avant tout un mouvement qui a permis aux femmes blanches de la classe moyenne et des classes supérieures d'exprimer leur vécu. Mais quand vous parlez de celles qui travaillent chez McDo ou qui ne sont pas blanches ou qui ont été abusées dans le cadre de leur travail, personne ne veut entendre ces histoires-là. Et ça, c'est un fait.
Donc, il y a encore beaucoup à faire. Clairement, il y a une forme de colère en vous, Ivy Opokoda. Je l'entends depuis le début de cet entretien. Est-ce que vous avez aussi une forme de violence en vous?
You know, it's funny.
Vous savez, c'est drôle parce que oui et non. Je n'ai jamais rien fait de si violent que ça, mais je suis toujours un petit peu choquée qu'on ne le fasse pas. Qu'est-ce qui en nous nous en empêche? Il ne faut pas grand-chose pour pousser quelqu'un sous le métro. Ça ne demande pas grand-chose de commettre un acte de violence. Et je me demande toujours... Je m'émerveille toujours du fait que la plupart des gens aient cette retenue qui les empêche de commettre des violences. Bien sûr, il y a des gens qui le font, mais je pense que nous en sommes tous capables. Et que les gens comme nous, en tout cas j'espère, ont les barrières qui leur permettent de ne pas le faire. Mais je pense que si on me poussait un peu pour protéger ma fille, je serais capable de violence. Je pense que je ne le ferais pas juste pour voir ce qui se passe et parce que je trouve ça cool. Il y a des gens comme ça. Je crois que dans le roman, j'écris quelque chose qui parle du fait qu'il y a certains qui adorent craquer une allumette, tandis que d'autres préfèrent regarder le monde brûler. Mais moi, je suis vraiment toujours impressionnée par la retenue de l'humanité, par sa capacité à s'auto-contrôler face à la violence. Mais je crois que les gens testent de plus en plus les limites actuellement et j'ai peur que la violence devienne bientôt une réaction respectable à beaucoup de choses, en particulier en Amérique aujourd'hui, c'est terrifiant.
Justement, j'allais vous poser cette question, comment ça se passe aujourd'hui aux États-Unis ?
That's a big question.
Eh bien, c'est une sacrée question, c'est vaste. Je crois que nous ne sommes qu'au tout début et que nous avons encore à découvrir ce qui va se passer. Je n'ai pas très envie de projeter les choses ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai envie de vous redire que je crois en l'humanité, que je crois en le bien commun et au pouvoir aussi des 50% d'Américains qui n'ont pas élu le président actuel et ne le voulaient pas, mais je ne vois pas grand-chose se passer. Je n'ai aucune idée de ce qui va se produire. Et je n'ai pas envie de deviner parce que j'ai peur que ce soit vraiment très mauvais. Mais je voudrais croire qu'il va y avoir une forme de mobilisation collective et de réaction. Mais je ne sais pas, les choses sont assez effrayantes aujourd'hui. On a vraiment le sentiment qu'un tsunami fasciste et autoritariste est en train d'engloutir le pays. Mais l'Amérique est vaste. En Californie, en dehors des communautés immigrées, on ne ressent peut-être pas les effets de la même manière qu'ailleurs. Mais on a quand même des exploitations agricoles qui vont être affectées. Je travaille à l'université, les subventions de recherches aussi sont supprimées. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça ne nous affecte pas nous, que ça affecte seulement les autres. Mais ça, c'est un moment qui va changer très rapidement.
Pour finir, on peut dire, je crois, que vos livres sont à la frontière du roman noir dont vous utilisez les codes. Je crois d'ailleurs que ces femmes-là, le roman précédent a été classé parmi les meilleurs thrillers 2020 par le New York Times. Est-ce que vous avez pour autant vraiment l'impression d'écrire du polar, ou alors c'est notre vie au quotidien qui est un polar?
Oui, c'est vrai. Je crois que vivre dans nos sociétés aujourd'hui est une situation, un acte de violence. Vivre en tant que femme est aussi être confrontée à cette situation de violence. Je ne décide pas d'écrire un roman noir ou un thriller. Je suis quelqu'un de plutôt joyeux. En tout cas, c'est ce que je pense de moi-même. Mais c'est vrai que quand je commence à écrire, les choses sont assez sombres parce que c'est ce que j'ai en tête, c'est ce que j'ai dans le cœur. Ce n'est pas intentionnel, c'est ce qui sort. C'est une question avec laquelle je suis aux prises. Hein. Ça a trait à l'oppression des femmes, au système de classe à Los Angeles, qui est quelque chose auquel je réfléchis tout le temps. Donc l'idée n'est pas d'écrire au départ une histoire criminelle, un policier, un roman noir, mais c'est un outil très utile pour examiner une communauté, des questions qui ont trait à la race, au genre, au crime. C'est un peu comme des rails. Je mets le train sur les rails. Le crime, ça va être justement ces rails. Le train, c'est moi en tant qu'écrivain et puis les péripéties que je vais mettre en place. Et c'est vrai que ça donne un monde assez noir. Je ne suis pas quelqu'un, moi, d'aussi sombre. Je ne pense pas que l'humanité soit aussi noire et mauvaise. Je ne crois pas que mes livres soient du true crime, se représentent une situation réelle, mais je crois que c'est la meilleure façon de représenter les communautés dont je veux parler.
Merci beaucoup à Ivy Pokoda d'être venue nous parler de Dios et Florida, ce nouveau roman qui paraît donc aux éditions Globe dans une traduction de l'anglais d'Adélaïde Pralon. Et j'en profite pour signaler que le roman précédent qu'on a évoqué, Ces femmes-là, paraît également en poche dans la collection Satellite chez Bourgois. Et merci beaucoup à Marguerite Capelle qui, comme d'habitude, a été une formidable interprète. Merci à vous deux.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.